me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation au naturel, non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. De professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle relation entre le droit et l'économie ? Comment l'ultralibéralisme et le communisme ont-ils scellé leurs noces ? Les postmodernes ont-ils eu une vision réductrice du droit ? Comment la doctrine « Law of Economics » théorise-t-elle la soumission de la loi au calcul économique, comme jadis la planification soviétique a pu instrumentaliser le droit ? Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire « État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités », après l'hybridation du droit et de la quantification, va nous présenter aujourd'hui celle du communisme et de l'ultralibéralisme dans le cadre de sa série de cours consacrée au passage du gouvernement par les lois à la gouvernance par les nombres. Pour ce spécialiste du droit du travail, la planification soviétique représente justement une première expérience de gouverner par les nombres. Dans sa présentation pour le Collège de France, Alain Supiot explique que l'édification du communisme a représenté la première tentative de bâtir un univers social à deux dimensions, celui du plan et de la planification, dans lequel le droit n'est plus qu'un instrument de mise en œuvre d'un calcul d'utilité collective. Dans une interview donnée au magazine L'Usine Nouvelle, le juriste qui analyse les convergences de la contre-révolution ultralibérale et de l'économie communiste de marché explique que Lénine est un précurseur dans sa façon de vouloir étendre à la société tout entière le modèle de l'entreprise selon le credo aujourd'hui rabâché par les prédicateurs de l'ultralibéralisme et du New Public Management qui pensent qu'un État doit être géré selon les mêmes méthodes scientifiques qu'une entreprise. Alain Supiot poursuit, et je le cite, « Comme l'a montré Bruno Trentin dans son grand livre sur la cité du travail, il y a eu un accord profond du capitalisme et du communisme pour placer le travail sous l'égide de la technoscience et l'évincer ainsi du périmètre de la délibération politique et de la justice sociale. » Cette hybridation de ces deux types de régimes, qui ont donné lieu, selon Alain Supiot, à l'émergence de l'ultralibéralisme et à l'utopie contemporaine d'un marché total. Il s'agit aussi d'examiner le rôle de la doctrine « Law of Economics », doctrine qui est encore au cœur de l'analyse du droit aujourd'hui. Alain Supiot met en valeur aussi une différence essentielle avec la période qui précède la chute d'une URSS déconnectée du réel et avant que la globalisation bouleverse nos sociétés. Notre juriste note que le libéralisme classique demeurait conscient du fait que la libre poursuite par chacun de son intérêt individuel ne pouvait engendrer la prospérité générale que dans le cadre d'un droit qui bride la cupidité. L'ultralibéralisme, au contraire, prend pour défait de nature les fictions juridiques qui fondent le marché et en vient à considérer le droit lui-même comme un produit en compétition sur un marché des normes. Le droit est asservi au calcul, tandis que l'État est très critiqué. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Alain Supiot le 28 mars 2013, l'asservissement de la loi au nombre, du Gosplan au marché total.
Bien, nous étions quittés la dernière fois en évoquant le Gosplan, la planification, et j'avais rapidement retracé le processus d'élaboration du plan, fait d'une descente à partir de chiffres généraux définis centralement, qui sont déclinés ensuite dans un processus à la fois régional et par branche d'activité jusqu'aux entreprises. Et à partir des observations faites à ces différents niveaux, il y a une remontée jusqu'à la définition finale du plan. Si l'on regarde le fonctionnement de la planification soviétique d'un point de vue juridique, il se décline en un nombre très important de plans qui régissent la production de biens et de services à chacun de ces niveaux, pour chaque entreprise. Et quand on dit entreprise, ça vaut aussi pour ce que nous appellerions service public. Il n'y avait pas de distinction à faire de ce point de vue. Et chacun de ces plans peut être analysé juridiquement comme un acte administratif unilatéral qui s'imposait aux opérateurs, qu'il s'agisse d'opérateurs économiques, pour employer notre terminologie, ou d'opérateurs de services publics, qui étaient tous des opérateurs publics. Dans un tel système, les contrats sont de simples instruments de mise en œuvre des objectifs chiffrés fixés par ces plans. Et la doctrine juridique soviétique distinguait deux types de contrats selon que leur conclusion était ou non imposée à ces opérateurs. Donc le premier type, c'était celui de contrat dit planifié, dont la conclusion était prescrite par le plan. Par exemple, le plan allait prescrire à l'entreprise A de se fournir auprès de l'entreprise B. Et dans ce cas, le contrat servait seulement à préciser le détail d'obligation qui ne pouvait pas être fixé par le plan lui-même. Et il avait aussi valeur d'engagement juridique, c'est-à-dire d'adhésion volontaire à la réalisation du plan. Et les contrats du second type, dits contrats non planifiés, ne reposaient pas sur une obligation juridique de contracter, mais sur la nécessité ou l'opportunité économique de le faire pour parvenir à réaliser les objectifs du plan. Par exemple, une entreprise A va prendre l'initiative de contacter une entreprise B ou C pour obtenir les matières premières dont elle a besoin pour réaliser ses objectifs. Donc cette liberté contractuelle était toutefois très encadrée, puisque les obligations souscrites par les parties devaient relever des missions qui leur étaient imparties par les plans. Alors, il faut souligner au passage combien ces contrats préfigurent ceux qui ont été développés depuis 20 ans dans les pays occidentaux sous le nom de contractualisation de l'action publique ou des services publics, où là aussi les contrats servent à décliner des objectifs généraux qui sont fixés centralement et valent adhésion, engagement à un certain nombre de règles. La nature proprement contractuelle de certains de ces actes a d'ailleurs pu être discutée par le Conseil d'État. Je pense les contrats de direction de thèse, je crois me souvenir que le Conseil d'État a dit qu'arrivé à ce niveau, c'était une métaphore de contrat plutôt que d'un contrat. Mais la structure logique est d'un même ordre, objectif défini centralement, puis ensuite cascade de contrats, mais qui sont des instruments de mise en œuvre d'une directive publique. Alors, voilà très rapidement ce que je voulais vous dire sur la planification soviétique. Et pour la rapprocher de ce que nous vivons aujourd'hui et de ce qu'était la manière de penser l'articulation de la loi et du contrat dans le libéralisme. Alors, si on prend ce qu'on peut appeler le libéralisme classique ou à l'ancienne, évidemment, ce libéralisme classique